à la campagne, où l'on va voir pourquoi ce livre a été fait. Elles étaient là, assises en rond sur l'herbe, et elles causaient, elles riaient. C'était plaisir d'entendre leur joyeux babil. C'était plaisir de voir leurs joues fraîches et roses, leur air animé. Vraiment, leur institutrice avait eu une idée heureuse en donnant à ses fillettes comme récompense cette journée à la campagne. Et comme elles en profitaient bien de leur promenade. Après une copieuse dînette, où les friandises étaient largement représentées, il faut bien soigner le dessert un jour de fête, elles avaient pris leurs ébats en liberté. On avait joué à courir, à cache-cache, aux quatre coins. Plusieurs de nos jeunes étourdis étaient un peu décoiffés. Même les grandes, les raisonnables d'habitude, étaient à bout d'haleine. Toutes étaient lasses et se reposaient présentement, en tirant de leurs cueillettes de fleurs un bouquet destiné à leur maman. Mais si les jambes ne marchaient pas, les langues allaient bon train. Moi, disait Laure, je raffole des contes. Ah, si j'avais d'une fée la magique baguette! Que ferais-tu? Demanda Rose avec malice. Ce que je ferais, fit Laure, les yeux tout agrandis des mille désirs qu'elle sentait confusément et ne savait comment exprimer. Oui, nous donnerais-tu de beaux habits? Nous en avons, nous sommes habillés en dimanche, fit Marthe en se rengorgeant. Nous donnerais-tu des gâteaux, des bonbons? Mais pas la peine, il reste des fruits dans nos paniers, soupira Charlotte, avec un regret de n'avoir plus faim. Nous donnerais-tu plus de plaisir que nous en avons aujourd'hui? C'est impossible, s'écrièrent-elles toutes ensemble. Moi, reprit Aline, je voudrais seulement avoir une belle marraine comme Cendrillon, une marraine qui me protège. Nos mères sont les meilleures marraines, allez, dit avec conviction Paul, qui était une des plus sérieuses de la classe. Moi, fit Claire, je rêve d'avoir un génie à mes ordres, comme Aladdin dans les mille et une nuits. Oui, dit vivement Rose, un génie qui te soufflerait tes leçons, n'est-ce pas? Et alors tu n'aurais plus à les apprendre, tu deviendrais paresseuse. Un génie qui contenterait tous tes caprices, et alors tu serais insupportable. Va, je t'aime mieux comme tu es. Toutes maintenant riaient à se tordre. Et quand la gaieté se fut un peu calmée, la bonne maîtresse prit la parole. Je vous ai écouté, dit-elle. J'avoue que je suis déçu. Comment? Vous êtes là une vingtaine, âgée de 12 ans et plus, et rien de sérieux ne vient dans votre conversation, rien du réel de la vie courante. Serait-ce que je ne vous ai pas obligé assez à jeter un coup d'œil autour de vous? Si vous saviez enfin, comme en dehors des billevesées et des contes que vous venez de rappeler, il y a des choses intéressantes dans la nature, dans l'industrie. Et là, pour de bon, c'est du vrai, comme disait tout à l'heure petite Jeanne. Alors, madame, parlez-nous-en, dit Suzanne. Madame, racontez-nous quelque chose. Madame, rendez-nous savante. Savante, oh non, fit modestement l'institutrice, mais instruite, ce qui n'est pas la même chose. Je voudrais qu'en quittant la classe, chacune de vous emportât un ensemble de connaissances variées qui permit de dire d'elle, elle sait ce qu'il est indispensable de savoir, elle peut parler d'une manière exacte sur mille choses utiles, pratiques, usuelles, elle connaît le parce que des nombreux pourquoi de la vie journalière. Madame, supplia Rose, si vous vouliez nous apprendre tout cela comme nous vous écouterions. Oui, oui, c'est cela, firent-elles toutes. Soit, reprit la maîtresse. Je vais réunir, grouper les sujets en question, les résumer en des espèces de monographies qui se graveront ainsi facilement dans votre mémoire, et qui sait, seront pour plusieurs une excellente préparation à des examens. Grande qui visait le brevet, voilà votre affaire, dit Laure. C'est l'affaire de vous toutes, répondit vivement l'institutrice. N'est-ce pas bien pour toutes de pouvoir se rendre compte des phénomènes de la nature, de savoir l'origine des objets qui sont continuellement sous nos yeux, de connaître les procédés ingénieux employés dans l'industrie, les travaux que nécessite notre nourriture, nos habits, nos logements, de constater les progrès en tout genre accomplis au prix d'efforts persévérants, et aussi les découvertes merveilleuses qui ont amené notre société au degré de civilisation où nous la voyons de nos jours? Certes, convint Laure, qui avait dressé l'oreille aux mots de découvertes merveilleuses. Pour ma part, j'aimerais être mis au courant du téléphone, du phonographe, du graphophone. C'est très très curieux. Vous comprendrez ainsi, ajouta la maîtresse, ce que nous devons de reconnaissance aux hommes d'autrefois qui nous ont fait ce que nous sommes, ainsi qu'aux chercheurs, aux savants modernes dont les labeurs ont préparé notre bien-être présent et nous ont ménagé ainsi de grandes jouissances. Madame, commencez donc, tourmenta Rose. Pas aujourd'hui. Mais dès demain, nous consacrerons chaque jour un quart d'heure de causerie à ce que nous appelons notre bagage scientifique. Le bagage scientifique de la jeune fille, Madame Clarisse Jurinville et Pauline Berget, 1888. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Je vais donc essayer de vous offrir un petit bagage, mesdames et messieurs, et pas ce blanc, mesdemoiselles, qui vous aidera peut-être à vous promener, sinon dans la vie de tous les jours, au moins dans votre bibliothèque. Car nous allons parler science aujourd'hui. C'est presque une bagageur d'ailleurs, parce que je ne vais pas simplement vous en parler, je vais essayer de vous en lire. Et je me suis d'abord livré à une première recherche, je me suis demandé quelle science il y avait dans la bibliothèque des amis d'instruction. Alors j'ai fait des calculs, tout simple. J'ai trouvé qu'il y avait 613 volumes de sciences, qui vont de l'arithmétique à l'anthropologie, de la botanique à la géologie. J'ai exclu la philosophie, donc je ne sais pas encore trop ce que c'est. 232 volumes sur les métiers de l'industrie et les professions. La métallurgie, l'horlogerie, l'industrie des pierres, l'électricité. Et bien sûr un certain nombre de livres sur le livre lui-même. Par exemple, je vous ai sorti ici de M. Albert Sim le livre. Alors le volume 4 et le volume 5 sont consacrés à la technique du livre, et ce que j'ai bien aimé, c'est que le premier livre, je vous lis simplement les trois items qu'il contient, l'amour des livres et de la lecture depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, prédilection particulière, et troisième item, auteur préféré, l'amour des livres et de la lecture. Ce que j'aime bien donc, c'est qu'à travers ces passages qui sont assez littéraires, il y a dans le quatrième et le cinquième, vraiment la science dure sur le livre. Si vous voulez savoir comment les conserver, comment les rénover, comment faire leur reliure, on peut toujours regarder cet Albert Sim. Mais si vous êtes un peu effrayé par tant de science, vous pouvez trouver sous la cote 2630, je ne sais plus quelle catégorie, de Jean Pizetta, l'histoire d'une feuille de papier. Histoire à laquelle peut répondre. Alors là, je vous ai fait un petit inventaire. Vous avez histoire d'un morceau de charbon. Je ne sais plus où il est. Histoire d'un morceau de charbon, le voilà, d'Edgar Aimant, 1868. Vous avez aussi une histoire de la chaussure. Vous avez la vie d'un brin d'herbe, la goutte de sève, les singes et singeries, histoires anecdotiques des singes. Si vous voulez faire dans le pratique, vous avez d'autres choses. Vous avez par exemple le petit Pierre ou le bon cultivateur. Le cri de guerre contre les insectes. Les débuts d'un amateur photographe, l'électricité à la maison, l'électricité chez soi, les accumulateurs électriques, il y en a sur l'électricité tout plein, les accumulateurs électriques, leur emploi dans les installations d'éclairage privé. Vous avez aussi le manuel élémentaire d'électricité industrielle. Vous avez aussi les leçons de céramique. Ah, vous avez aussi celui-ci de Baudry de Saunier. Le cyclisme théorique et pratique. Introduction de Pierre Giffard. Et vous avez là le premier squelette vélocipédant de l'histoire de la vulgarisation des sciences, mesdames et messieurs. Et pendant que le livre circule, je vais juste vous donner quelques indications sur l'auteur, car c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tout à l'heure, j'ai cité les deux auteuses, autrices, Madame Clarisse Surinville et Madame Pauline Berger, dont je sais à peu près rien, je ne les connais pas, je n'ai rien trouvé sur elles. Elles ont écrit d'autres petits trucs, mais Baudry de Saunier est très très important. Et vous le connaissez tous, enfin ceux qui tiennent le volant, parce que c'est lui qui, dans les années 1930, a écrit le premier code de la route. C'est-à-dire que c'était un homme qui s'intéressait toujours aux découvertes nouvelles et essayait de les vulgariser. Alors la petite biographie de lui qu'on peut résumer ainsi, il est né en 1865, il faisait des études de droit et puis il a arrêté ça pour fonder le Roquet, une petite feuille littéraire dans laquelle écrivit Jules Renard. Et puis vers 1890, c'est le coup de foudre pour la petite reine. Et il nous écrit, par exemple, le cyclisme théorique et pratique, comme celui-là, l'art de la bicyclette. Dans l'art de la bicyclette, il a cette phrase merveilleuse, il dit qu'il a écrit le scalpel dans une main et la clé anglaise dans une autre, pour disséquer sa bicyclette. Alors après, il est tout le temps gavé par la science des merveilles nouvelles. C'est lui qui vulgarise, fait les premiers ouvrages de vulgarisation de l'automobile. Il écrit aussi beaucoup de livres sur la TSF, la sans fil. Il manipule le condensateur, la lampe électrode, tout quoi. Il s'occupe de tout un petit peu. Bon, mais peut-être que vous voulez faire sérieux quand même aussi. Alors là, vous avez aussi le choix, là-haut, un peu caché. Du baron Georges Cuvier. Vous avez les discours sur les révolutions de la surface du globe et sur le changement qu'elles ont produit dans le règne animal. Du docteur Jean-Louis de la Naissant, vous avez le transformisme, un ouvrage important, un des premiers ouvrages de vulgarisation sur le darwinisme, 1880 nous sommes. Et puis alors si vous voulez garder un peu l'équilibre idéologique, vous pouvez avec l'abbé Moreux, un vulgarisateur des années 20-30, passer quelques heures dans le ciel, ou bien alors carrément un jour dans la lune. Quant à vous, mesdames, je ne vous oublie pas, je sais que vous êtes très importantes ici, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez, petite causerie botanique de Madame Huguette. préfacé par Jules Claretti. Vous avez le jardinier des dames, la chimie des dames, le cabinet de toilette de la baronne Staff, que nous n'avons hélas pas retrouvé il y a deux jours, la botanique des demoiselles. Vous avez un choix. Alors mon problème devant ce choix, c'était de choisir dans cet inventaire, de faire un exposé qui ne soit pas trop scolaire tout de même, et puis bah, d'essayer quand même de vous en lire un maximum. Alors j'ai choisi un peu ce parti finalement, je crois que ça m'évitait de faire un truc trop structuré. J'ai pris des livres qui à chaque fois m'évoquaient des choses, des idées. Ces livres se lisent très très facilement à voix haute. Vous l'avez pu le remarquer avec le bagage scientifique, je me suis simplement contenté de l'écourter un petit peu, d'éliminer quelques phrases. Mais ils ont beaucoup à voir avec la littérature orale ou avec les contes, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses qui devaient se transmettre, en tout cas par la lecture ou par la voix, dans les années 1860-1880. Alors un certain nombre de tableaux. Mon premier tableau, c'est simplement mon titre, La Bibliothèque des Merveilles. La Bibliothèque des Merveilles, on va essayer de voir ce que signifient ces merveilles. Alors, c'est une collection, la Bibliothèque des Merveilles, qui a été rénovée après les années 20, après les années 1918 chez Hachette, mais qui a eu son heure de gloire entre 1860 et 1900 à peu près, avec plus de 80 volumes, qui ont presque tous pour titre Les Merveilles de, pas tous, mais beaucoup ont Les Merveilles du Monde, Les Merveilles du Monde Invisible, Les Merveilles du Microscope, Les Merveilles de tout ce qu'on veut. Et elle est très importante pour moi parce qu'elle a été fondée par deux personnages que je crois vraiment qu'il faut connaître, Édouard Charton et Louis Hachette. Édouard Charton, c'est le premier personnage qu'on connaît un petit peu dans les mondes de l'éducation populaire. Il a fini sénateur, c'est dire s'il était important. Il a commencé sa carrière dans le monde de l'édition en étant le fondateur du magasin pittoresque en 1833, c'est-à-dire d'une série d'ouvrages réguliers, d'un hebdomadaire, un mensuel. Il est très célèbre parce qu'il a été toujours à l'origine de nouveaux produits éditoriaux, comme on dirait maintenant. On lui doit l'Illustration, qui est aussi une grande revue, Le Tour du Monde, qui est aussi une grande revue, où s'illustrent pratiquement tous les grands auteurs de l'époque, aussi bien Jules Verne que Lamartine. Enfin, il a su mobiliser tous les grands auteurs. Et bien sûr, la Bibliothèque des Merveilles. Alors pour la Bibliothèque des Merveilles, il a voulu lui donner trois caractéristiques. D'abord, l'illustration. Quand il a fondé le magasin pittoresque, il s'est tout de suite mis en cheville avec un grand illustrateur de l'époque, Jean Best, qui avait reçu un prix à l'exposition universelle de 1855, qui a fait des images qui sont un peu posées aux bibliothèques d'Épinal. Donc, il a toujours voulu que les illustrateurs soient très importants. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment maintenant, en 1992. Il a eu parmi ses illustrateurs tous les grands illustrateurs de Jules Verne, Édouard Rioux, Grand Cyr, Jules Ferrat, Ménel, Émile Bayard, Alphonse Deneuville, enfin tous ces gens-là qu'on retrouve qui sont des illustrateurs de Jules Verne. Sa deuxième caractéristique, c'est qu'il a toujours voulu les grands auteurs. Alors ça, il s'est bien débrouillé. Il a eu Camille Flammarion, il a eu Amédée Guillemin, Wilfried de Fonvielle, dont je vais parler dans quelques instants, Zurker et Margolé, dont je vais parler aussi, des grands auteurs de vulgarisation. Mais il s'est aussi débrouillé, et ça c'est plus remarquable, pour avoir plein de grands scientifiques, des hommes spéciaux, comme on les appelait à l'époque. Il a comme ça récupéré Henri Bocquillon, que vous connaissez sans doute pas, mais qui était quand même un professeur de botanique à la faculté de médecine de Paris. Il a convaincu d'écrire un livre pour sa collection. Il a convaincu aussi Louis Deharme, un élève de l'école centrale, directeur de la Société des chemins de fer du Midi. Comme ça, il réquisitionnait, si je puis dire, il convainquait les grands scientifiques d'écrire pour lui, enfin pour sa collection. Et enfin, sa troisième caractéristique, c'est d'être lié au mouvement saint-simonien, c'est-à-dire à tous les mouvements d'instruction populaire. Et il a été fondateur, d'ailleurs, de la Bibliothèque Populaire de Versailles. Mais je ne sais pas si... En 1848, je ne sais pas ses relations ici avec la Bibliothèque des Amis d'Instruction. Je suis sûr qu'il l'a vu d'un bon œil. Et c'est sur ces principes qu'il rencontre Louis Hachette, qui est lui aussi ancien polytechnicien. Et ils se rencontrent tous les deux, à partir de 1851, au retour de Louis Hachette de l'Exposition Universelle de Londres. Et ils ont été fascinés, enfin Hachette surtout, a été fasciné par la bibliothèque à petit prix que les Anglais vendaient dans la gare. Et ils vont s'associer à Hachette et Édouard Charton pour fonder la Bibliothèque des Chemins de Fer, qui était composée de volumes à petit prix, très petit prix, qu'on pouvait prendre comme ça dans la poche avant d'aller dans le train. Alors ça, c'est leur premier travail. Le premier volume date de 1853, c'est la Bibliothèque des Chemins de Fer, et vous allez tout de suite comprendre ce qu'ils veulent nous dire, simplement à l'écoute du titre de ce premier volume et du nom de l'auteur. Le titre, c'est Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, et l'auteur, c'est Alphonse de Lamartine. Et donc, ils nous révèlent ainsi toujours presque leur volonté d'associer le temps, excusez-moi, le temps libre et le temps livre. C'est un petit peu leur idée fondatrice. Et à partir de là, ils vont donner le guide des voyageurs, c'est le nouveau guide bleu, mais à l'époque c'était les couvertures rouges. Les livres d'histoire et les voyages, c'était la couverture verte. Les livres illustrés pour les enfants, c'est la bibliothèque rose. Et puis, sous une couverture bleue, les merveilles du monde invisible. C'est pour ça que je l'ai amené dans sa couverture bleue. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette bibliothèque? Alors, on nous raconte plein de choses. Et les journalistes de l'époque ne s'y trompent pas. Un chroniqueur de la Science Populaire, qui est une revue de vulgarisation de l'époque, nous dit ceci. L'homme spécial, l'auteur du livre, vous introduit dans les ateliers où se transforment les métaux. Celui-là vous fait pénétrer au sein de la terre et vous apprend à en retirer les ressources qu'il recèle. Ici, vous entendez le récit de la vie et des exploits des grands hommes. Vous assistez à leurs combats, à leurs efforts ou à leurs chutes. Là, vous suivez le voyageur intrépide dans ses excursions. Le monde ancien reparaît devant vous dans les spécimens conservés dans les entrailles de la terre. Ce que veut nous dire ce journaliste, c'est que ce qui est fait probablement la caractéristique de ses ouvrages, c'est qu'ils sont complètement dans la science qui est en train de se faire. Ils essaient de nous montrer comment la science vit à l'époque où ces livres sont écrits. Et je crois qu'on trouverait difficilement là l'équivalent dans nos livres actuellement, parce qu'il est très rare de voir décrit la science dans sa vie quotidienne. On nous donne des livres où il y a surtout des résultats de science, mais pas vraiment où il y a véritablement la science vécue. La science au quotidien, dans son laboratoire. Alors je vais vous en lire deux passages. Le premier passage est consacré à l'eau, de Gaston Tissandier. Et voilà, nous sommes au chapitre, c'est un peu le milieu. Il vient de nous décrire l'eau, les puits artésiens, le système circulatoire, l'océan, tout ça. Et puis voilà, quand commence le chapitre premier de la question de la composition de l'eau et ses propriétés physiques et chimiques. Le laboratoire. Après avoir examiné le rôle de l'eau dans la nature, la mission qu'elle est appelée à remplir sur le globe terrestre, poursuivons nos investigations plus minutieuses. Ayons recours aux appareils que la science met en jeu pour étudier les substances qui se présentent à nous sur la Terre. Pénétrons dans le laboratoire où nous allons procéder à nos travaux de recherche. Je dois toutefois vous prévenir, avant d'en ouvrir la porte, que vous n'y verrez pas les engins bizarres que vous attendez peut-être à y rencontrer, et que les alchimistes se plaisaient à étaler aux yeux des visiteurs. Le crocodile a cessé de bâiller au plafond, le soufflet poussif n'enfonce plus sa buse dans un fourneau massif et ne fait plus entendre ses grincements. Le maître a perdu sa longue robe, il a cessé d'être plongé dans le dédale des bouquins poudreux qui s'élevaient en piles désordonnées au milieu du sanctuaire. Au lieu de chercher dans l'inextricable fatras des vieux livres la vérité qui s'y trouve rarement, il s'efforce à prendre la nature sur le fait, à interroger par l'expérience, et en procédant à une série d'études méthodiques, il parvient le plus sûrement à puiser dans l'observation la vérité qui doit s'y rencontrer toujours. Nous trouverons dans notre laboratoire des verres, toujours prêts à recevoir les liquides que nous voudrons y verser, des fioles, des ballons, des cornues destinées à subir l'action du feu. En un mot, les vases de toutes sortes se prêteront à tous nos besoins d'études. Des fourneaux à gaz s'allumeront au contact d'une allumette, en nous prodiguant à la minute une forte température, sans le secours du soufflet traditionnel. Des piles nous fourniront un courant électrique puissant, ou un rayon lumineux intense. Une machine pneumatique fera le vide quand nous l'exigerons. Une balance de précision nous aidera dans nos analyses. Un baromètre nous indiquera la pression atmosphérique. Un thermomètre et d'autres instruments nous fourniront au besoin leur concours. Peut-être allez-vous regretter le vieil alchimiste et ses appareils bizarres, la poussière qui saupoudrait le tout. Si vous êtes artiste, vous allez sans doute déplorer l'absence du crocodile bourré de foin, et vous vous récrierez en ne voyant nulle part un serpent confit dans l'esprit de vin, en n'apercevant plus de pélicans empaillés, plus de squelettes, plus de toiles d'araignées, plus de couleurs locales, en un mot. Notre laboratoire a déchiré son enveloppe mystérieuse. Mais au lieu de parler en termes confus à votre imagination, il parlera en termes précis à votre raison. La science ne vous y apparaîtra plus sous un voile épais, sous un brillard confus. Elle s'est dépouillée des lambeaux qui la défiguraient. Ce demi-jour, cette obscurité mystérieuse qui règne dans le sanctuaire de l'alchimiste, c'est la superstition qui étale sur toute chose son manteau. C'est le faux qui plane au-dessus du vrai. Ces ornements bizarres sont l'image du merveilleux qui s'attache au premier pas de la science naissante et arrête ses développements. Ce vieux maître qui déchiffre depuis 60 ans le même grimoire poudreux, c'est la science faisant fausse route, c'est l'homme demandant la vérité à d'autres hommes qui l'ignorent comme lui, au lieu de la demander à la nature qui la tient cachée, mais qui la dévoile aux chercheurs patients. Notre laboratoire, propre, éclairé, ordonné, c'est la science moderne, simple, précise, vraie, dépouillée de son fatras inintelligible, de son masque rébarbatif, offrant à tous les secrets qu'elle réservait à ses rares initiés. Elle n'est plus amoureuse des termes abstraits, des phrases sonores et creuses, des formules hérissées d'aspérité. Elle a mis en lambeaux tout ce déguisement. Elle s'adresse à tout le monde et veut être comprise de vous tous. Veut être comprise de vous tous. D'où question. Est-ce qu'on va arriver à vous faire comprendre de la science, vous qui n'êtes peut-être pas tellement scientifique? Alors, je ne vais pas continuer avec l'eau. L'écriture de Gaston Tissandier est un petit peu costaude. Je vais prendre un deuxième ouvrage... Les merveilles du monde invisible de Wilfried de Fonvielle. Alors là, je ne peux pas résister à vous le montrer. Voilà Wilfried de Fonvielle. Oh. Wilfried de Fonvielle est un homme extraordinaire. C'est un aéronaute. D'abord, il est né très tôt, dans les années 1825. En 1848, il fait partie de ces étudiants qui entrent dans la chambre des députés pendant la Révolution. Alors évidemment, il est foutu dehors, de la chambre d'abord, de France ensuite. Il est envoyé en Algérie. Il revient... Dans les années 1850, il est absous, enfin bon, patati patata. À partir de là, il ne fait plus de politique, il ne fait plus que des sciences et de la vulgarisation. Il fait surtout des ascensions en ballon. Et il fait des ascensions en ballon avec Madame Anna Kluebke, qui est sa compagne. Et puis en 1905, la fille de sa compagne, Mademoiselle Kluebke, le peint pour un tableau. C'est un tableau, je n'ai pas l'original, enfin je n'ai pas les couleurs. J'ai simplement trouvé dans une revue de 1905. Elle le peint pour être exposée au salon. C'est le titre du tableau, c'est là où je venais en venir, en train de donner une conférence populaire. Le voit, comme ça. Ça devait être quelque chose. Alors j'ai choisi de lui, Les merveilles du monde invisible, deux textes. Le premier, j'avoue qu'il est un petit peu long, c'est un voyage, et une fois qu'on a commencé, ben, j'ai l'impression qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout de ce voyage, puisque le premier chapitre s'appelle Le départ. Donc, de Wilfried de Fonvielle, 1869, troisième édition. Et comme tout à l'heure, il va s'adresser à vous. Tout à l'heure, c'était nous, là, c'est vous. Vous n'avez point oublié l'aventure de l'Arabe des mille et une nuits qui plonge sa tête dans un seau d'eau enchanté. Vous vous rappelez avec quelle animation le héros de cette histoire étrange raconte ses impressions fantastiques, ses longues pérégrinations dans des pays bizarres, avec quelle éloquence il retrace la série d'événements extraordinaires qui ont duré le temps que son visage est resté au fond du vase mystérieux, quelques secondes en tout. Le voyage que nous allons entreprendre ne sera pas moins fécond en étonnement, car nous allons faire pour l'étendue ce que le poète musulman a fait pour la durée. Ce train de plaisir pour l'infini ne nous fatiguera pas, comme on pourrait le redouter, car nous n'épuiserons pas ce que contient le plus petit jardinet. Avec le microscope, c'est l'esprit qui marche. Pourquoi se fatiguer, disait soi Merdam, quand on peut tirer un monde de sa poche, on n'a pas besoin de courir après la vérité. Le talisman qui permet de descendre dans l'épaisseur des êtres que les regards des hommes peuvent apercevoir n'est pas aussi difficile à se procurer que les rameaux d'or dont se servaient les poètes pour conduire leurs héros dans le monde également invisible où règne Pluton. Allons, non point trouver la pitié sur son trépied, mais chez Nachet, dans son comptoir, il nous donnera une petite boîte dont on couvrirait la base avec le creux de sa main. Nous n'avons pas besoin d'incantations mystérieuses, de cercles magiques tracés comme ceux des sorcières du sabbat. Cette cassette de cuivre doré, que j'ai tirée d'une gaine en peau, va nous servir d'embarcadère, de tremplin, pour nous lancer dans les espaces inconnus. Mais, avant de partir, nous devons examiner le véhicule scientifique de notre raison dans ce vagabondage au-delà des grandeurs tangibles. Ne faut-il pas faire connaissance avec le merveilleux talisman qui va faire les coulisses de la nature ouvertes devant nous? Presque en contact avec ce qu'il faut voir, au-dessus des objets, se trouve une combinaison de loupes destinées à leur donner les dimensions qui leur manquent pour que nos yeux puissent les saisir. Le plus pressé est d'amplifier l'image, mais évidemment tout ne s'arrête pas là. Car cette image gigantesque, il faut encore la montrer. C'est l'office de l'autre bout de l'écran diaphane, derrière lequel le micrographe se place pour contempler le spectacle merveilleux. Une masse de verre, d'une dimension plus vaste que les loupes d'en bas, rassemble les rayons que le désir de grossir avait un peu trop éparpillés. Cette lentille ultime du microscope facilite l'effort que l'œil doit faire pour transmettre la sensation à notre intelligence. Lui-même n'est-il pas un parfait instrument d'optique qui porte à sa partie antérieure une substance transparente analogue à celle qui termine notre appareil ? L'organe de la vision commence de la même manière que finit la lunette des infiniment petits. Semblable à l'oculaire des astronomes, la cornée recueille un faisceau de rayons émanés de chaque objet. Elle le fait converger en un point convenablement sensible sur le rideau nerveux où les images viennent se photographier. Mais la nature possède plus d'un modèle dans ses ateliers. Car sans relâche, elle travaille avec l'infini dont elle se sert à toute heure. Entre les myopes qui ont leurs lentilles bombées et les presbytes qui les ont aplaties que de degrés, que de nuances. Comment mettre d'accord l'instrument du dehors avec celui du dedans? Notre cheval fantastique a beau piaffer, nous ne saurons le monter si nous ignorons l'art de lui mettre un mort. Déplorable nécessité qui équivaudrait pratiquement à la ruine de l'optique, s'il fallait prendre la mesure de l'œil des gens et fabriquer à chacun son appareil. Heureusement, un génie inconnu a trouvé le moyen de donner au problème une multitude suffisante de solutions. Il suffit de faire mouvoir une des lentilles à l'aide d'un mouvement à coulisses des plus simples pour ajuster le microscope à chaque vue. Chaque observateur peut allonger ou raccourcir le tube afin de choisir la longueur en harmonie avec ses organes. Cette boîte merveilleuse que nous pouvons porter avec nous suffit très bien pour montrer aux premiers venus les choses beaucoup plus grandes qu'elles ne le seraient à nos yeux si nous restions avec notre taille actuelle, pendant que la Terre prendrait subitement le diamètre du Soleil. Mais le micrographe n'est pas toujours assez favorisé pour errer en vagabond scientifique au pied des chênes, au bord des étangs, sur le sommet des Alpes ou le long des falaises de l'océan. Que de fois l'amant de la nature n'est-il point condamné à gémir au fond de ces prisons que l'on nomme laboratoire? Alors, il doit renoncer au poétique appareil, à la robe dorée. Il faut adopter des instruments plus sévères, mais plus stables, plus massifs, mais plus précis. En voilà un que notre constructeur a disposé pour les travaux les plus pénibles. Il servira pour entraîner l'esprit au grand galop dans le pays des études divines, dans les régions dont s'écartent avec effroi les esprits poétiques, par la faute des savants qui n'ont point eu recours à l'art, ce grand éducateur, ce grand éclaireur des mondes obscurcis par les pédants. Il nous est permis de choisir au milieu d'un nombre inépuisable de modèles appropriés à tous les besoins de l'analyse ou même de la fantaisie. Jamais l'opticien ne trahit le chercheur, ne le laisse sans aide aux prises des difficultés insurmontables. Le microscope incliné se recommande par une disposition qui permet d'opérer les réactions chimiques avec autant de facilité que s'il n'y avait pas à la fenêtre un observateur assistant à cette lutte intime des forces de la matière. C'est un prisme de verre placé au sommet de l'angle des deux tubes qui permet à tous ces drames de se dérouler devant vous. Au lieu de suivre la route vulgaire classique, le faisceau pénètre dans l'appareil par la partie supérieure du tube vertical. Il descend puis il remonte, repoussé le long de la branche inclinée par la réflexion totale et vient frapper l'œil embusqué derrière la lentille. Heureusement que vous avez des schémas, hein ? Sinon, le texte ne suffirait pas à toute la compréhension. Alors nous allons terminer par cette apologie, car en fait tous ces livres sont des apologies des merveilles de la nature. Nous sommes libres de nous mouvoir dans des limites qui devraient nous satisfaire. Si le terme de notre ambition scientifique n'était la conquête de l'infini, cette toison d'or de l'intelligence. Tout en conservant provisoirement ces instincts sublimes, si jamais, pour votre malheur, vous voulez vous mêler de faire le métier de chercheur, méfiez-vous des moyens compliqués. Vous verrez que les outils les plus simples sont presque toujours les seuls qui puissent permettre d'arriver au but. Le Christophe Colomb ne s'embarque pas sur des frégates cuirassées, mais sur de modestes caravelles. C'est avec des loupes vulgaires dont nos écoliers ne voudraient pas que les Squammerdam et les Leeuwenhoek ont commencé à déchiffrer la Bible de la nature. Qu'est-ce donc que la vue du savant? N'est-ce point la plupart du temps une sorte de sublime divination? Ce que l'on voit sert pour ainsi dire de prétexte pour saisir ce que l'on parvient à comprendre, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas encore. C'est de la philosophie des sciences, pratiquement, dans tous ces livres. Alors, pour retomber, alors, plus modestement, dans la vie de tous les jours, il y a plein de chapitres, évidemment, sur les merveilles que l'on découvre dans une goutte d'eau ou ailleurs, mais vraiment, le chapitre peut-être, en tout cas le plus drôle, c'est le chapitre qui s'appelle « L'œil de la justice ». L'œil de la justice, pourquoi l'œil de la justice? Eh bien, on va voir. Un de mes amis était autrefois délégué comme expert dans la poursuite des délits commis par les marchands de denrées alimentaires. Le spectacle de la corruption profonde de certains spéculateurs lui fait prendre parfois l'humanité en dégoût. « Je ne peux songer, dit-il sans effroi, à la perversité des gens qui ne craignent pas de compromettre la santé de leurs semblables pour gagner à chaque crime quelques fractions de centimes. » Eh bien voilà le problème. Le problème, c'est de découvrir les porcs infestés de trichines qui perforent votre estomac, de découvrir le poison, les poissons avancés, les pâtissiers qui mélangent des œufs avec des fruits gâtés, ceux qui mettent je sais pas trop quoi dans le cacao, ceux qui font de l'eau de Seine transformée en vin de Bordeaux, de l'eau de Seine, hein, de la sure de bois changée en café de Ceylan, de l'huile de vitriol métamorphosée en vinaigre d'Orléans. Près de l'abattoir Popincourt se trouvait un gargotier qui servait gravement à ses clientes du bouillon de gélatine, comme s'il n'avait pas été prouvé que les qualités nutritives de cette décoction sont identiques à celles de l'eau chaude. Je ne parlerai pas des traiteurs qui guettent le poisson avancé pour l'avoir au meilleur compte. Vous en voulez d'autres? On m'a montré un écarisseur qui, faisant de l'hypophagie pratique, s'était associé avec un boucher de grand quartier. Il transformait la dépouille de ses victimes efflanquées en bœuf de seconde catégorie. Il n'y a pas de découverte dont on ait tiré un parti puissant contre l'ordre social. Les faux monnayeurs ont mis à contribution la galvanoplastie dès le début de cet art. Jusqu'à ce qu'on en eût trouvé le moyen d'introduire dans la pâte des billets de banque des filigrammes d'une nature particulière. Heureusement, le microscope vient à notre aide. Lui, l'arme de l'honnêteté, il est pour ainsi dire impossible de le corrompre, de le tourner au service du crime, qu'il ne sert jamais qu'à demi, comme un soldat qui tire en l'air pour ne point fusiller ses frères. Comment voulez-vous que l'homme, tigre qui vient de sacrifier la vie d'un de ses semblables, à une cupidité féroce, à une passion impure, à un désir insensé de vengeance, à y explorer non point au microscope composé, mais même à la loupe, le théâtre de son forfait. Comment supposer le loisir et le sang-froid nécessaires pour sonder les replis de ses vêtements, pour explorer chacun des clous qu'il porte à ses souliers? Ce n'est pas une balance, mais le microscope en main que je représenterais Thémis, si j'avais l'honneur d'être peintre ou poète. N'est-ce point, en effet, avec le microscope, qu'elle peut recueillir les dires de 1000 témoins cachés? Malheureusement, l'éducation du public est encore à faire. On comprend très difficilement que la police municipale ne puisse pas être partout à la fois, et que par conséquent sa vigilance ne puisse empêcher les citoyens d'être pillés dans leur fortune et dans leur santé. Quoique la loi cherche à le faire, il n'y a véritablement de bien protégé que ceux qui veillent eux-mêmes au salut de leur bourse et de leur estomac. Prenez l'habitude de manier le microscope, et vous serez sauvés de cette multitude de petits délits qui tuent un peu chaque jour. Vous échapperez à une foule de malaises, de maladies provenant des poisons alimentaires qu'on débite chez l'épicier et le marchand de comestibles sous prétexte de truffer les dindons. Soumettez à l'appareil le plus simple, le plus commode, les substances susceptibles d'être fraudées. Et vous rétrécirez tellement l'air de la supercherie que la probité deviendra une vertu très pratique pour tous les boutiquiers. La fraude sera bientôt la plus ridicule de toutes les spéculations. Voilà un fournisseur qui vous a vendu du café fabriqué de toutes pièces dans ses caves et qui compte sur l'impunité. Rien ne vous est plus aisé que de le saisir en flagrant délit. Car la matière qui vient honnêtement des îles d'Amérique ou d'Arabie vous montrerait une foule de cellules polygonales qui brillent par leur absence. Vous ne trouverez dans cette denrée fétide que la fibre de la sûre torréfiée qui a été mélangée à votre poudre. Vos fournisseurs pratiqueront moins facilement la petite morale quand ils sauront que vous maniez le grand confesseur des fraudes. Le grand confesseur des fraudes. Ils n'achèteront plus la discrétion de votre soubrette s'ils savent que vous vous entretenez avec le bavard qui raconte comment la partie mucilagineuse de la chicorée et les granules d'amidon ont été élevées par la grâce de Mercure à la dignité de plantes aromatiques. La nature a ses points de repère, inébranlables, précisément parce que l'œil nu ne saurait les voir. Mais, quoique cachés, ils éclatent, pour ainsi dire, à chaque pas du microscope. Pour construire artificiellement le moindre grain de mil, il faudrait développer beaucoup plus d'art que pour édifier une basilique. Jamais la contrefaçon ne sera assez parfaite pour que vous ne puissiez la prendre en flagrant délit d'erreur. Le plagiaire a cru faire un miracle. Il a inventé un nombre infini de détails. Que vous importe. Descendez plus bas encore dans l'intimité des choses et vous laisserez derrière vous le subterfuge. Les matières animales ne sont pas moins susceptibles d'être réduites à l'état de complices involontaires. À la soie que file le ver du mûrier vient se joindre celle du bombyx cynthia. Bientôt d'autres chenilles auront conquis une place honorable dans nos cultures. Voilà que l'usage des graines oléagineuses dans l'engraissement permet à nos toisons européennes de prendre un lustre analogue à celle qui distingue la laine des lamas, des alpacas, des vigognes. Encore des erreurs. Encore des tromperies possibles. Quelle mine de crimes. Mais, armés de notre microscope, nous pouvons marcher à coup sûr dans ce dédale où la mauvaise foi s'embusque. Nous dominons les gens qui vivent du trafic des textiles, de toute la hauteur de notre clairvoyance. Car chaque fibre porte ce que nous pourrions appeler la marque de fabrique de l'infiniment petit, que nul ne saurait contrefaire. Sinon, vous avez le lait pur de vache, le lait d'une vache malade, le lait d'une vache qui vient de veler, le lait fabriqué avec de la cervelle de veau, du chocolat falsifié, du café falsifié, du thé entièrement falsifié, de la farine de blé au lieu de la farine de seigle, du beurre pur mais qui ne l'est pas. Voilà, donc il y a un texte, il est absolument superbe, il est marrant, et puis il est bien écrit en plus, toujours. Deuxième tableau, bah, c'est quand même de se demander pourquoi tous ces gens-là écrivaient. Ce qui nous a frappé avec Jean-Jacques, c'est l'actualité des propos des gens, l'actualité des propos des auteurs. Je veux dire qu'il y a dans leur bouche des désirs, des volontés qu'on essaie de nouveau d'entendre actuellement et qu'on n'entend pas partout dire. Il n'y a sans doute pas beaucoup de scientifiques vrais et purs dans l'assistance, j'en connais au moins un, mais... Les scientifiques d'Astor ont comme mission plusieurs choses. Ils ont d'abord comme mission de chercher, éventuellement de trouver, ça c'est classique. Bon, ils sont payés pour chercher, éventuellement de trouver. Et ils sont quand même payés, ça c'est un peu dans la charte du CNRS, pour diffuser leurs connaissances. Il a fallu l'inclure dans la charte. Eh bien, on a l'impression que pour les gens de cette époque, pour certains tout au moins, c'était presque, j'ose pas dire naturel, mais que ça entrait dans leur corps. Alors, de Félix Archimède Pouchet, l'opposant à Louis Pasteur dans la querelle sur la génération spontanée, dont vous avez peut-être entendu parler, l'introduction de son livre « L'univers » sur les infiniment petits et les infiniment grands. Et voilà ce qu'il nous dit, très brièvement. « Mon unique but, en écrivant ce livre, a été d'inspirer et de répandre, autant qu'il est en moi, le goût des sciences naturelles. Ce n'est point un traité savant, c'est une simple étude élémentaire, faite en vue de porter le lecteur à chercher, dans d'autres livres, des connaissances plus étendues et plus approfondies. » Juste, je m'arrête juste sur ce passage, je vais presque en faire une lecture expliquée. Quand il nous dit que son objectif, c'est de porter le lecteur à chercher dans d'autres livres des connaissances plus étendues et plus approfondies, il définit pratiquement ce qu'est la vulgarisation, ce que nous pensons être la vulgarisation. C'est un moment où on donne envie au lecteur ou à l'auditeur d'aller voir plus loin, de chercher autre chose. Il ne cherche pas vraiment à leur donner toute la réponse dans le livre. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui écriraient ça en introduction de leur bouquin maintenant. Ils auraient peur qu'ils aient tout de suite cherché un autre livre, peut-être. Je serais heureux si cette étude pouvait être considérée comme le péristyle du monument où se cachent les splendeurs mystérieuses de la nature, et si elle suffisait pour donner à quelques personnes le désir de pénétrer dans le sanctuaire même et d'en écarter les voiles. Toujours la même image. J'ai glané partout pour montrer que partout la nature nous fournit la matière d'observation curieuse. Les animaux et les plantes, la terre et les cieux se trouvent tour à tour mis en scène. Et ce qu'aura intéressé cette huit rapide et sommaire d'esquisses et de tableaux t'ouvriront des développements plus complets dans les longues notes placées à la fin du volume. Quiconque, c'est là que je voudrais m'arrêter, quiconque aspire au titre de savant a aujourd'hui une double mission, découvrir et vulgariser. D'une main, il doit travailler au progrès de la science et de l'autre à sa diffusion. Voilà. Non seulement il faut diffuser, donc ça fait partie un peu de la mission ainsi comprise par Pouchet, mais Pouchet n'est simplement qu'un exemple parmi tout un tas d'autres. Non seulement il faut diffuser, mais en plus il faut recevoir. C'est-à-dire que les gens sont aussi disposés à recevoir. Celui qui nous le dit, c'est Camille Flammarion, dans son roman philosophique Uranie. Un très court passage, qui fait le pendant d'un texte qu'il a écrit par ailleurs, où il explique qu'il est très surpris, quand il fait des conférences populaires sur l'astronomie, pas loin d'ici d'ailleurs, il est très surpris de voir des ouvriers, des gens qui savent à peine lire, qui viennent l'écouter, alors qu'il dit-il, ils n'ont aucun intérêt financier ni de diplôme. Ils viennent simplement écouter l'astronomie, comme finalement le Berry, c'est toujours beaucoup de succès. Et il nous parle de cette envie populaire de science. Mais ce n'est pas tout. Donc il a parlé d'abord des progrès de l'astronomie. Mais ce n'est pas tout. Cette rénovation d'une science antique servirait peu au progrès général de l'humanité si ces sublimes connaissances qui développent l'esprit, éclairent l'âme et la franchissent des médiocrités sociales restaient enfermées dans le cercle restreint des astronomes de profession. Ce temps-là va passer aussi. Le boisseau doit être renversé. Il faut prendre le flambeau à la main, accroître son éclat, le porter sur les places publiques, dans les rues populeuses, jusque dans les carrefours. Tout le monde est appelé à recevoir la lumière, tout le monde en a soif. Surtout les humbles, surtout les déshérités de la fortune, car ceux-là pensent davantage, ceux-là sont avides de science, tandis que les satisfaits du siècle ne se doutent pas de leur ignorance et sont presque fiers d'y demeurer. Oui, la lumière de l'astronomie doit être répandue sur tout le monde. Elle doit pénétrer jusqu'aux masses populaires, éclairer les consciences, élever les cœurs. Et ce sera là sa plus belle mission. Ce sera là son bienfait. La science à tous les carrefours. Je vous rappelle que le 12, 13, 14 juin, M. Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie, a déclenché ce qu'on appelle la fête de la science. Donc c'est une volonté presque optimiste, sinon généralisée, de mettre la science dans toutes les formes, à tous les carrefours. À cette époque-là, c'est la même époque où on invente les petites vignettes dans les tablettes de chocolat, ou les vignettes dans les bouillons Oxo, 1890-1900, les bouillons Liebig. Ce sont aussi des communications scientifiques. Et même dans les cartes postales, on peut trouver, si vous faites les bouquinistes, des cartes postales de science. On trouve par exemple la photo de l'abbé Moreux dans son laboratoire, dans son observatoire, avec souvent des petits poèmes qui témoignent ainsi du scientifique. Hein. Donc on a ainsi une façon de mettre de la science partout. Il y a les jouets scientifiques. À cette époque-là, les jouets scientifiques reçoivent des prix dans les expositions universelles. Les petites panoplies du chimiste. Tout ça, ça fait partie de cette même volonté de mettre la science partout, partout. Ben, par tous les moyens, troisième idée. Le livre, ben, vous devez en mettre partout. Troisième tableau, bibliothèque de poche. Maître du savoir, comme ça. Maître Pierre. Les Maîtres Pierre, c'est une très importante série. Du savon de poche, Maître Pierre, ou le savon du village, où on trouve plein de petites choses. Et là, j'ai pris dans la bibliothèque utile des petits livres, le télescope et le microscope, mais cette fois-ci, on va parler du télescope. Et puis, les phénomènes de l'atmosphère. Ah oui, ça, les phénomènes de l'atmosphère, c'est très très intéressant. Vous savez encore, vous expliquez la science. Alors, je ne sais pas si vous avez compris tout à l'heure l'usage du microscope, mais après, je vous parlerai des éclairs. Alors là, c'est très costaud sur les éclairs et la foudre. Je ne suis pas physicien, mais j'ai quand même appris des petites bricoles. Bon, ce passage, il est très bien. Il montre bien que les auteurs ont compris que le livre, c'est simplement un petit moment dans la vie de quelqu'un. Voilà ce qu'il nous dit pour que le goût de l'astronomie se répande. Zurker et Margolet, ce sont des anciens polytechniciens. Ils ont écrit plein de livres. Ils étaient enseignes de vaisseau, tous les deux. Pour que le goût de l'astronomie se répande, il est important d'en aplanir les abords. On se laisse souvent arrêter par la difficulté de bien figurer les lignes et les cercles élémentaires de la sphère et d'y rapporter les observations qu'on essaie de faire. Quelques villes du Midi, Montpellier, Marseille, Draguignan, Nice, possèdent sur des promenades et des places publiques, où le ciel est bien en vue, un instrument analogue au globe céleste et très propre à rendre les premiers pas plus faciles. Dans cet instrument, désigné par le constructeur, M. Ouvière de Marseille, sous le nom de cosmographe, et qu'on a pu voir à Paris dans nos expositions universelles, un cercle vertical en métal, supporté par un piédestal, fait connaître le plan du méridien. Une verge qui le traverse représente l'axe du monde et est coupée par un second cercle figurant l'équateur. quatre vergettes, placées à 23 degrés au-dessus et au-dessous l'équateur, donnent les positions des tropiques, et quatre autres, celles des cercles polaires. Et là, c'est sur les éclairs. Alors, la compréhension des éclairs, c'est très important, parce que ça renvoie à cette idée du merveilleux de tout à l'heure. Il y a le merveilleux de la nature, et la vulgarisation des sciences, pour tous ces chercheurs, tous ces auteurs, a pour volonté d'essayer de calmer les gens, de leur montrer que la science aura réponse à tout. Les éclairs ordinaires durent à peine un millième de seconde. Mais quelquefois, la foudre arrive sous la forme d'une boule de feu, marchant avec assez de lenteur pour qu'on en puisse reconnaître la forme, et s'arrêtant même pendant quelques secondes avant d'éclater et de produire tous les dégâts du tonnerre. C'est ce qu'on nomme la foudre globulaire. Un grand nombre de récits démontrent ce fait, qui est en opposition avec tout ce qu'on sait de l'électricité ordinaire. Madame Esper, demeurant à la cité Audio, à Paris, signale ainsi une de ses apparitions. Passant devant ma fenêtre, qui est très basse, je fus étonné de voir comme un gros ballon rouge, absolument semblable à la lune, quand elle est colorée et grossie par les vapeurs. Ce ballon descendait lentement et perpendiculairement du ciel sur les arbres des terrains Beaujon. Ma première idée fut que c'était une ascension de M. Grimm, mais la couleur du ballon et l'heure, 6h30, me faisaient faire penser que je me trompais. Et pendant que mon esprit cherchait à deviner ce que cela pouvait être, je vis le feu prendre au bas de ce globe suspendu à 15 ou 20 pieds au-dessus de l'arbre. On aurait dit du papier qui brûlait doucement avec de petites étincelles ou flamèches. Puis, quand l'ouverture fut grande comme 2 ou 3 fois la main, tout à coup une détonation effroyable fit éclater tout l'enveloppe et sortir de cette machine infernale une douzaine de rayons en zigzag qui allèrent de tous côtés et dont l'un vint frapper une des maisons de la cité, où il fit un trou dans le mur comme l'aurait fait un boulet de canon. Ce trou existe encore. Enfin, un reste de matière électrique se mit à brûler avec une flamme blanche et à tourner comme un soleil de feu d'artifice. Les effets de la foudre sont d'une incroyable intensité, surtout les effets mécaniques. Dans un édifice, les pièces de métal sont arrachées et transportées au loin. Arago les attribue dans certains cas à la vaporisation subite de l'eau par l'électricité. C'est ça que j'ai appris, moi. Le bois est ordinairement desséché et fendu en une multitude de lattes minces. Souvent aussi, il prend feu et un incendie se développe. Les métaux, échauffés par le passage de la foudre, sont fondus et volatilisés. Des cordons de sonnette n'ont laissé le long du mur contre lesquels ils étaient tendus qu'une trace de parcelles noires. Le parquet de bois contenait une traînée de globules profondément incrustés. On a également vu fondre ainsi une tige de 11 mm d'épaisseur. Nous pourrions citer un grand nombre de faits singuliers qui montrent avec quelle intention, si l'on peut ainsi parler, la foudre se dirige vers les parties métalliques et évite les étoffes isolantes. Monsieur Jamin parle d'une dame qui, pendant un temps orageux, étendait sa main pour fermer une fenêtre. La foudre part et le bracelet que porte la dame disparaît si complètement qu'on n'en trouve plus aucun vestige. Mais la dame n'a rien eu. Je vous rassure. Voilà, donc la bibliothèque de poche, c'était un tableau très court, mais il y a des éléments pour aller plus loin. Il y a de la sociologie des sciences aussi. À la fin, souvent, ça se termine par une apologie de la science. Tout ça, c'est des données qui sont permanentes dans tous les genres de livres. Et mon dernier tableau, pas le plus long, mais le plus varié peut-être, c'est le conte scientifique. C'est des histoires qui ont des caractéristiques d'histoires, de contes. Sauf que le thème, c'est pas du merveilleux, c'est de la science. C'est-à-dire que là, les gens veulent transmettre de la science. Alors, ce sont des livres qui ont tous pour titre « Histoire d'une bouchée de pain »,« Promenade dans un laboratoire »,« Voyage au pays des étoiles »,« Histoire des fleurs »,« L'ami Kips »,« Voyage d'un botaniste dans sa maison »,« Voyage scientifique autour de ma chambre ». Vous avez tout un tas de titres comme ça, et vous avez toujours la même structure. Un narrateur, soit présent physiquement, soit simplement le narrateur du livre. Vous avez un personnage, celui qui sait la science. Alors celui qui sait, ça peut être un docteur, souvent un docteur. Ça peut être un instituteur, très important, un professeur, un monsieur à la retraite, mais ancien professeur ou ancien scientifique. Vous avez un troisième personnage qui ne sait pas, évidemment, dans lequel le lecteur est censé se reconnaître. Alors je vous ai choisi des livres, surtout pour les enfants, où là, celui qui ne sait pas est un enfant, et où l'enfant doit se reconnaître dans cet enfant, doit souffrir avec lui, doit avoir du plaisir avec lui, doit s'intéresser à la science grâce à ça. Et vous avez enfin d'autres personnages qui sont là exprès pour donner un peu du corps, pour faire des événements imprévus, qui vont relancer l'intrigue, parce que mesdames et messieurs, c'est pas évident. de mêler de la science à une histoire. Il faut arriver à fondre des événements dans une trame qui, elle, ne veut pas être simplement scientifique. C'est du Jules Verne, mais pas uniquement. C'est autre chose que Jules Verne. Et d'abord, une idée qui est intéressante, c'est que dans tous ces voyages, dans toutes ces promenades, on amène souvent les enfants loin de chez eux et en dehors des écoles. Tout se passe pendant les vacances scolaires, pratiquement. Les récréations physiques de Castillon, par exemple, débutent dans un train lancé à toute vapeur. Les enfants, après la distribution des prix, paf, vont aller chez leurs parents ou dans une famille, chez des amis ou chez un tonton, tata ou non. Alors, une tante, alors vous avez la science de tante Babet, vous avez les causeries de l'oncle Jean, de l'oncle Paul, vous avez oncle Toby le pêcheur, toujours Toby, la science et la Bible. Toby, c'est un personnage de la Bible. On retrouve oncle Toby, qui cette fois-ci ne sera pas un apôtre, mais je ne sais pas ce qu'il était, Toby, mais qui sera, non pas un homme qui fait des miracles, mais un homme qui connaît la science. Hein, qui a toujours cette relation. Voyage au fond de la mer avec la fée Urgelle. Cette fée qui amenait les chevaliers de la table ronde, et bien là, elle va emmener un enfant sous la mer, elle va lui faire découvrir la science. Toujours ce télescopage entre les faits scientifiques, les contes scientifiques, les contes normaux, si je puis dire, puis les faits scientifiques et les contes scientifiques. Tout ça, c'est pour dire qu'en jusqu'en 1880, il n'y avait pas de science à l'école. Ça veut dire que le seul lieu pour les jeunes d'apprendre de la science, c'était en dehors de l'école, et ça justifie sans doute les propos des vulgarisateurs. Et de temps en temps même, dans un livre qui est absolument superbe, qui s'appelle « Les jeudis de Monsieur Dulaurier », l'instituteur emmène les enfants le jeudi, c'est-à-dire au mercredi, et il fait de la science avec ses gamins en promenade, il fait comme ça des promenades, et il dit dans la préface, c'est parce qu'il n'a pas le droit de le faire à l'école. Évidemment, c'est pas au programme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il amène ses enfants le jeudi pour se promener et faire de la science. Donc ça se passe en dehors de l'école, il n'y a pas d'autre solution. Alors je vous ai choisi trois exemples. Le premier, c'est un incontournable, l'histoire d'une bouchée de pain de Jean Massé, qui est le fondateur de la Ligue d'enseignement, et puis qui a eu un rôle énorme dans les bibliothèques populaires. C'est lui qui a lancé les premières bibliothèques populaires dans les années 1850, alors qu'il était en exil en Alsace. Donc c'est un peu lui rendre un certain hommage, parce que finalement, cette bibliothèque, dans les années 1860, fait partie des développements de Jean Massé. Donc on peut lire un petit peu de Jean Massé. La structure de Jean Massé est un petit peu différente. Disons que le narrateur, celui qui aussi organise souvent la rencontre entre le scientifique et celui qui ne sait pas, est le même que celui qui est le scientifique. Donc il y a un petit télescopage, probablement parce que Jean Massé était un peu scientifique lui-même, il connaissait un peu de science, et qu'il a envie de se placer là-dedans. Ce qui m'intéresse dans l'introduction, c'est de partir d'un petit rien pour faire de la science, et c'est ce qu'il nous dit. Alors, deux passages, l'introduction et un peu plus loin, un passage dont je vous laisse la surprise. J'entreprends, ma petite fille, de vous expliquer bien des choses qu'on regarde en général comme très difficiles à comprendre et que l'on n'apprend pas toujours aux grandes demoiselles. Si nous parvenons, en nous y mettant à nous deux, à les faire rentrer dans votre tête, j'en serai très fier pour mon compte et vous verrez combien la science de messieurs les savants est amusante pour les petites filles, bien que ces messieurs prétendent quelquefois le contraire. L'histoire d'une bouchée de pain. Si c'est là ce que je veux vous raconter, vous me direz que ce n'est pas la peine. Vous en savez là au-dessus aussi long que moi, et je ne vous apprendrai pas la manière de mordre dans une tartine. Eh bien, vous ne vous doutez pas de la quantité incroyable de choses qu'il y a sous ce petit mot, et qu'un gros volume que nous pourrions en faire, si je voulais entrer dans tous les détails. Vous êtes-vous demandé quelquefois pourquoi l'on mange? Je vous vois rire d'ici. Belle demande. Ce que j'avais, c'était pour grandir. Et comment avez-vous grandi, s'il vous plaît? Vous voilà prise. Il est bien sûr que personne n'est venu rallonger vos jambes pendant que vous dormiez, et que si les bras sortaient des manches, ce n'était pas parce qu'on avait remis un petit morceau au coude, comme on remet des planches à la table les jours où l'on donne à dîner à beaucoup de monde. Cependant, rien ne grandit tout seul, comme rien ne diminue non plus. Persuadez-vous bien de cela une fois pour toutes. Si l'on n'a rien ajouté par dehors, il faut bien que quelque malicieux génie ait fourré par dedans tout ce qu'il y a de plus dans les bras, dans les jambes et le reste. Et ce malicieux génie, savez-vous bien qui c'est? C'est vous. Ce sont vos belles tartines, vos bonbons, vos gâteaux, la soupe aussi. Et la soupe encore mieux que tout le reste, pour vous le dire en passant, qui, une fois disparu dans le petit gouffre que vous connaissez bien, se sont mis, sans vous demander la permission, à se transformer et à se glisser sournoisement dans tous les coins et recoins de votre corps où ils sont devenus, à qui mieux, des os, de la chair, etc. Tâtez-vous de tous les côtés. Ce sont eux que vous rencontrerez partout sans les reconnaître, bien entendu. Vos petits ongles roses qui se trouvent repoussés tous les matins, le bout d'un bas de vos beaux cheveux blonds qui s'allongent toujours davantage en vous sortant de la tête comme une herbe qui pousse hors de la terre, vos dents de grande fille qui montent maintenant le bout de leur nez et remplacent à mesure celles qui vous étaient venues en nourrice. Vous avez mangé tout cela il n'y a pas longtemps. Alors on va voir un passage. Aujourd'hui, mademoiselle, nous allons, pour commencer, faire connaissance avec un mot nouveau. Je vous en aurais fait grâce volontiers, car il n'est ni beau, ni bien fait, mais c'est impossible. Vous savez que les parents inconnus de tout ce qu'il y a dans notre corps ont donné à la pâte qui sort de l'estomac le nom assez saugrenu de chyme. Nous en avons assez parlé, et vous le connaissez de reste, celui-là. Il paraît que sa tournure leur a plu, car ils y sont revenus avec un tout petit changement quand il s'est agi de baptiser la quintessence du chyme, la partie utile qui doit aller rejoindre le sang, ce que nous avons appelé entre nous l'or des aliments. Et ils ont dit le chyle. Je vous donne le mot comme on me l'a donné, et je m'en lave les mains. Je vous avais dit qu'il se trouvait un moyen pour faire sortir le chyle du tube intestinal. Ce moyen est bien simple. Un gros bataillon de ces petits balayeurs dont nous avons parlé la dernière fois est rangé en bataille tout le long de l'intestin grêle, et surtout aux alentours du duodénum. Là, 1000 petits canaux viennent percer en tous sens la tunique de l'intestin et sucent, comme autant de petites gueules toujours béantes, les gouttes de chyle à mesure qu'elles se forment. On les a nommés vaisseau chylifère ou porte-chyle, comme on dit calorifère ou porte-chaleur, du mot latin ferro qui veut dire « je porte ». Je vous ai dit qu'il y avait à l'intérieur de l'intestin des panneaux élastiques qui barrent le passage au chyme et l'obligent à faire des haltes à chaque instant. Il y en a même une si grande quantité, et la peau qui tapisse en dedans le tube intestinal fait tant de plis et de replis que si l'on l'étalait bout à bout sur une grande table, elle tiendrait pour le moins autant de place que cette autre peau bien connue de vous qui recouvre en dehors le corps tout entier. Eh bien, les vaisseaux chylifères, se glissent dans tous ces replis et plis. Ils arrivent ainsi au cœur même de la pâte chimeuse, et pas une pauvre petite goutte de chyle ne peut leur échapper. Ils travaillent si bien que le nettoyage est fait bien avant que la pâte arrive au gros intestin, et quand elle a forcé la porte qui en défend l'entrée, et qui l'empêche ensuite de revenir sur ses pas, le chyle est déjà bien loin. Il s'est faufilé dans les petits canaux, et grimpant toujours de proche en proche, il s'est mis en route vers le cœur, où on l'attend. Et le reste, que devient-il? Le reste, ma chère enfant, n'a pas d'histoire. C'est le sort, la punition, si vous voulez, de tout ce qui ne sert à rien. C'est ce qui arrive aussi à tous ces gens oisifs, à la fois et de la tête et des bras et du cœur, et qui passent dans le monde sans rien lui donner. Inutiles et honteux fardeaux de la terre, la nature les expulse de son sein quand l'heure est venue, et voilà tout, et l'on n'en parle pas autrement. Mais celui qui a fourni sa part, si petite qu'elle soit, à la vie commune de l'humanité, celui qui a enrichi d'une découverte, d'un procédé utile, d'un bon exemple, d'une idée juste, ce patrimoine universel que les hommes se repassent les uns aux autres de génération en génération, celui qui a mis la main au triomphe d'une vérité, frappé sur une injustice, éteint une haine, allumé dans une âme le feu sacré de l'étude et de l'honneur. Celui-là ne sort pas ainsi du monde qui a reçu quelque chose de lui. Si les livres ne parlent pas toujours de sa personne, perdue dans la foule des actifs de tout temps et de tout pays, il a été l'un des ouvriers de l'histoire humaine. Et cette histoire-là, c'est la sienne, que son nom y figure ou non. Suivons donc les destinées de ce brave Chine, etc. Toujours une petite page moralisatrice. Si je puis me permettre, le suivant en fait très cucu la praline. Mais si on se contentait de cette approche, je crois qu'on se couperait d'une volonté massive, collective, de faire ce type d'ouvrage. Ce type d'ouvrage a été fabriqué, lu, écrit d'abord, fabriqué et puis édité par des éditeurs, bien vendu, bien lu, je n'en sais trop rien, en tout cas bien diffusé dans les bibliothèques. Et donc, ils avaient sans aucun doute des lecteurs, à voix haute peut-être. L'avant-dernier exemple, les promenades du docteur Bob, histoire de deux jeunes naturalistes. C'est l'histoire d'un docteur, Bob. Le train de Trouville est-il signalé ? Pas encore, docteur, mais l'express de Paris vient d'arriver en gare de Trouville, et dans un quart d'heure, 20 minutes tout au plus, vos voyageurs seront ici. Juste le temps de jeter un rapide coup d'œil sur le talus qu'on vient de terminer. Peut-être y trouverai-je quelques fossiles intéressants oubliés par vos piqueurs, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ainsi, un jeune homme qui accompagnait le docteur, son fils évidemment, si l'on en jugeait d'après leur ressemblance. Cette conversation avait lieu le 18 août 1884, à 6 heures du soir, auprès de la gare, alors en construction, de Villers-sur-Mer. Le chef de gare sourit, fit un signe d'acquiescement et, appelé par son service, rentra dans son bureau. Le jeune homme allait profiter de la permission lorsque, portant les yeux vers son père, il s'arrêta tout à coup. Le docteur paraissait en proie à une inquiétude mal dissimulée, et devinant aussitôt l'interrogation muette que semblait lui adresser le regard de son fils, il ne crut pas devoir se contenir plus longtemps. « Tu ne saurais croire, mon cher Léon, combien j'ai hâte de voir si ce qu'on m'a écrit au sujet de ton cousin René n'est pas exagéré. Les accès de fièvre intermittente qui l'ont contraint à cesser tout à coup ses études quelques semaines avant ses vacances, et son retard à venir cette année sur la côte normande, tout cela, soit dit entre nous, ne me présage rien de bon. » Enfin, dans 10 minutes, nous saurons à quoi nous en tenir, acheva-t-il en manière de conclusion, tout en poussant du bout de sa canne les graviers qui se trouvaient sur son passage. Le docteur Bob Herval, l'oncle Bob, comme on l'appelait par abréviation dans sa famille, le docteur, disent simplement les gens de Villers-sur-Mer, quoiqu'il y ait aujourd'hui au moins 8 docteurs dans la contrée, est un grand vieillard pâle avec de longs cheveux blancs, barbe toujours soigneusement rasée, l'air à la fois bon et un peu railleur. Ses yeux gris d'une mobilité extrême, tantôt brillent d'un éclat singulier à travers ses sourcils épais, comme pour déchiffrer l'âme de ses patients et pénétrer jusqu'au siège de leur mal. Tantôt, par un changement soudain, se perdent dans une expression vague d'une douceur infinie. De mise toujours correcte, il porte le chapeau plat à large bord, l'inévitable cravate blanche qui fait avant de se nouer 3 tours autour du col et à la boutonnière la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Au moral, c'est l'homme le meilleur et le plus bienveillant que je connaisse. Tous les ans, pendant son court séjour à Villers, on le considère comme la providence de la contrée. Resté veuf de bonne heure, le docteur s'est dévoué plus que jamais au culte de la science, nous y voilà, et à l'éducation de son fils, et peu à peu, il y avait trouvé, sinon l'oubli, du moins un dérivatif puissant. Cependant, Léon, qui venait de s'éloigner de quelques pas en réalité, moins pour chercher des fossiles que pour se donner une contenance, ne laissait pas que de partager les craintes exprimées par l'excellent docteur. Il avait voué lui aussi à son cousin une affection profonde, en raison peut-être de la loi des contrastes, car il était difficile d'imaginer une dissemblance plus grande que celle qui existait entre les deux jeunes gens. Léon était brun, trapu, très fier de ses moustaches naissantes, travailleur infatigable. Il avait hérité des goûts scientifiques de son père et consacré à l'étude de l'histoire naturelle 16 heures de repos après les études sérieuses qu'exigent la dernière année de préparation au baccalauréat. René, que nous allons voir tout à l'heure, René, blond et long, et flanqué au-delà de toute vraisemblance, ne paraissait tenir debout que grâce à je ne sais quel miracle continu d'équilibre. Parisien dans l'âme, jouant au sceptique, insouciant par nature, il n'était jamais aussi satisfait que lorsque pions et professeurs voulaient bien le laisser travailler ou rêver à sa guise selon le caprice du moment. L'étude des sciences exactes, aussi bien que celle des sciences naturelles, le laissait complètement froid. Il ne comprenait pas, selon son expression favorite, que l'on pût converser avec les plantes, les bêtes et les cailloux, préférait le boulevard à la campagne, un décor de théâtre aux grands horizons, et déconcertait d'un mot son cher cousin Léon, qui essayait souvent, mais sans grand succès, de le convertir à ses idées. vous avez compris, mesdames et messieurs, l'organisation du livre. Nous avons d'un côté le docteur Bob Herval, Bob, sympa, gentil, tous les attributs, mignon, enfin monsieur, sympa, bien mis, tout. De l'autre côté, son fils. Bon, il a transmis les envies de connaissances scientifiques à son fils. Et tous les deux reçoivent en colis pour les vacances René, le neveu et le cousin de l'autre, dont on apprend qu'il est sceptique. Donc toute l'histoire va être de convertir ce neveu récalcitrant à la science. Eh bien, je vais vous lire un élément qui témoigne des trésors d'inventivité, non pas du docteur Bob, mais par l'auteur de ce livre, pour arriver à faire ceci. Donc nous sommes à la page 73, ça fait déjà pas mal de promenades. René et Léon, René le pas bon, Léon le bon, plongent le filet dans l'eau et se promènent sur la plage. Léon allait plonger de nouveau son filet dans l'eau. René, d'un geste, l'arrêta. « Mais malheureux, tu perds une friture tout entière. Il est vrai que ce serait un crime que de ne pas laisser vivre ces carrelets minuscules et ces limandes lilliputiennes. Petit poisson deviendra grand. » Et du doigt, il désignait 5 ou 6 pleuronectes de la largeur d'un centime. « Examine-les bien, » dit Léon, en les plaçant au fond de sa main. « Comment trouves-tu leurs yeux ?»« Oh, comme les yeux de tous les carrelets de la terre, pardon, je veux dire de la mer. Cependant, je crois que ceux-là ont la figure un peu moins de travers que leurs camarades plus grands. À quoi cela tient-il ? » Tiens, là, vous voyez déjà qu'il pose des questions. Hein ? À quoi cela tient-il ? À leur genre de vie. En naissant, ils ont la figure droite, comme les autres poissons. Puis peu à peu, l'habitude de rester dans le sable les force à porter de côté la tête qui se déforme et s'ankylose. Quelque chose comme un torticolis permanent. C'est assez original. À mon tour, dit René maintenant. Encore un poisson. Bah, il a même une bien vilaine physionomie, avec ses épines noires et ses yeux au-dessus du front. Est-ce encore un diable, troisième catégorie ? Laisse-le, laisse-le, s'écria Léon. C'est un toqué. Les pêcheurs boulonnais désignent souvent sous ce nom le Trachinus vipera. « Toquez-toi-même, vieux fou !» répondit René, en allongeant la main plus vivement encore jusqu'au fond du filet. Mais il n'eut pas plus tôt touché le poisson qu'il retira précipitamment sa main en poussant un cri de douleur. « Pincé, je t'avais averti, » dit Léon. Heureusement que j'ai sur moi par habitude un flacon d'ammoniac. Et saisissant son mouchoir, il frictionna la plaie, fit promptement une compresse sur la main du blessé. « Ce n'est rien, » murmurait René, en faisant une grimace qui donnait un formel démenti à ses paroles. « Ce n'est rien !» Mais rapidement, la douleur très cuisante lui avait gagné l'avant-bras, et en même temps qu'un frisson nerveux lui faisait claquer les dents, comme par un froid intense. « Rentrons au plus vite, » dit Léon. « C'est maintenant ce que nous avons de mieux à faire. » Événement perturbateur. Il s'est fait piquer, parce qu'il n'a pas attendu le conseil de son cousin, qui connaissait le nom du poisson. Le poisson, c'était une vive. Maintenant, nous avons insufflé un peu de science, nous avons insufflé un événement perturbateur, ça va être l'explosion finale, et celui qui peut apporter la solution à tout, c'est évidemment le docteur. Début du chapitre suivant. La piqûre de la vive vipère, cautérisée à temps, n'est pas dangereuse. Néanmoins, le docteur, après avoir pratiqué une légère incision et pansé son malade, prescrivit un repos de 2 ou 3 jours. Les promenades au bord de la mer furent donc momentanément suspendues. Le docteur. « Réjouis-toi d'en être quitte à si bon compte, » avait dit le praticien en installant la dernière bandelette. « J'ai vu dans certains cas, lorsque la blessure plus profonde était négligée, un flegmon avec gangrène se produire et quelquefois nécessiter l'amputation du doigt blessé. » Le débutant naturaliste fit une horrible grimace. « Et êtes-vous bien sûr, oncle Bob, que nous n'en viendrons pas là cette fois ?»« Parbleu, si j'avais la moindre inquiétude, crois-tu que je t'en dirais si long ?» René se rendit à cette raison péremptoire. « C'est donc du vrai poison, du poison de vipère qu'il y a dans le dard de cette vilaine bête-là » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, » dit son cousin Léon. « On a fait là-dessus de grandes recherches, mais elles n'ont guère, je crois, abouti jusqu'à présent. »« Je le sais, moi, » dit le docteur. L'appareil avenant des vives est connu, mais depuis quelques jours seulement. Jusqu'ici, son exiguïté lui avait permis d'échapper à toutes les investigations. Le digne savant assujettit son binocle sur son nez, prit un crayon, une grande feuille de papier blanc, afin de pouvoir compléter sa démonstration par une esquisse sommaire, et commença ainsi. Voilà, après l'appareil en question se compose, etc. Je vous, simplement un tout petit détail, c'est que quand j'ai lu à un moment, Je le sais, moi, dit le docteur, l'appareil à venin des vives est connu, mais depuis quelques jours seulement. Il y a une petite note infrapaginale, et en note infrapaginale, il y a les références, si vous le voulez, recherches faites au laboratoire de physiologie maritime du Havre par M. A. Bottard, présentées comme thèse inaugurale par M. A. Gressin, et éditées sous le titre « Contribution à l'étude de l'appareil à venin chez les poissons du genre vive » à David, éditeur. Et il y a les références. Et alors, à la fin, évidemment, c'est la fin des vacances. C'est-à-dire, le problème de ces livres, c'est toujours de trouver une chute. C'est compliqué de finir un livre, c'est compliqué de finir une conférence. Donc là, épilogue. Il naît, dit un ancien proverbe, si bonne compagnie qui ne se sépare. Et le moment vint de faire de nouveau préparer ses malles, de les fermer et de les boucler pour le retour. Déjà, soupirait René qui depuis le matin était occupé à ce travail maussade. Déjà, répétaient machinalement Léon et le docteur. Il le fallait cependant. La fin des vacances était proche. Et l'oncle Bob lui-même ne devait plus prolonger que d'une semaine son séjour à Villers. Le congé annuel que lui permettaient ses fonctions dans les hôpitaux de Paris allait expirer et le devoir professionnel exigeait un prompt retour. On se mit à table sans grand appétit, il faut l'avouer. Et au moment même où le repas se terminait, la servante entr'ouvrit la porte. « Monsieur, la voiture du chemin de fer !» Avez-vous remarqué l'impression produite par ces mots lorsqu'il faut s'arracher un séjour devenu cher ? La pensée du départ ne peut entrer dans l'esprit si l'on y songe. C'est pour jeter les yeux autour de soi, se dire que le moment de la séparation est encore loin. Mais l'heure finit par sonner et brutalement vous ramène à la réalité. « Monsieur, la voiture du chemin de fer !» Les malles furent de nouveau hissées sous la bâche et René, qui quelques semaines auparavant affectait de comprendre si peu et de railler joyeusement les goûts scientifiques de son cousin. René, le parisien sceptique et cervelé d'antan, se retourna une dernière fois au moment du départ vers le laboratoire du cottage, comme pour lui dire adieu. Et quand, après avoir embrassé l'oncle Bob, il franchit le marchepied du wagon qui devait le ramener à Paris, « Merci, dit-il à Léon, en lui serrant avec effusion la main. Tu m'as appris à observer. Tu m'as montré comment, n'importe où, on peut t'occuper et élever son intelligence. Encore une fois, merci. » Le train partit. Le jeune homme se pencha pour apercevoir encore une dernière fois derrière les grands arbres le cottage paisible où, au lieu des plaisirs bruyants, il avait trouvé pendant ses quelques jours de vacances le bonheur tranquille et réconfortant que procure l'étude. Puis les arbres et le cottage disparurent à leur tour. Alors René s'enfonça dans un coin, ferma les yeux et, bercé par le ronronnement monotone du train, il s'endormit.
C'est le
19e, c'est des gens qui étaient à la fois littéraires et scientifiques, peut-être, ils écrivaient comme ça, puis ça passerait peut-être plus la rampe maintenant comme ça, de toute façon.
C'est pas tout à fait des affaires publiques, il y a des exemples contemporains du récit du conte comme ça, c'est les histoires d'un joueur.
Les Mr. Topkins de George Gamow,
George
qui sont traduites en français, c'est un américain, où là c'est l'histoire de la miniaturisation de petits bonshommes qui se retrouvent dans le corps. Je voudrais simplement dire que tout le monde connaît, enfin beaucoup connaissent Mr. Topkins, mais ce que j'ai trouvé en 1885, un livre qui s'appelle, de 1885-88, Excursion du petit pousset dans l'intérieur du corps, et c'est la même chose, c'est la miniaturisation, c'est fait par le docteur Augustin Galopin, qui est le père d'Arnoul de Galopin, que vous connaissez peut-être, on vous a peut-être des livres ici, qui était un grand auteur de petits romans pour enfants de l'entre-deux-guerres, et puis des romans à chez Ferenczi, là, des petits romans à 50 centimes, enfin des petites choses.
C'était son nom ?
C'était son nom, hein, Augustin Galopin. Il va dans le sang, et après il sort par l'oreille, ce qui est le contraire de Gargantua. C'est marrant, il y a tout de suite, c'est complètement une histoire rocambolesque. Il est toujours là, en ce moment, il y a Ordi. L'histoire des grandes découvertes, c'est fait comme ça, c'est un petit bonhomme miniaturisé. Ça marche pour la télé, mais là, ce qu'on demanderait, c'est la lecture. Est-ce que des romans, des petits contes scientifiques, comment ils passeraient la rampe? Disons que toute cette littérature s'effondre vers 1905.
Oui.
Et là, je crois que la recherche n'est pas encore assez poussée pour vraiment comprendre pourquoi. Je crois que les causes sont multiples. Ça peut être, par exemple, une surchauffe de l'édition. Une surchauffe, c'est-à-dire que les éditeurs ont tellement produit dans les années 1880-1900. Il faut voir que tout ce que vous avez ici, tout ce que j'ai pu trouver aussi, c'est énorme, des choses qui se recoupent d'ailleurs énormément. Donc est-ce qu'ils sont allés trop loin et que finalement ils n'arrivaient plus à vendre? Il faudrait trouver les archives des éditeurs et voir leur niveau de vente. Alors ça c'est très dur parce que les éditeurs soit ne nous laissent pas entrer, soit ils ne veulent pas parce qu'ils s'en foutent complètement, il faut le dire. Soit non. C'était, non, c'était toujours la même. Non, les, ça commence en 1860, 1870, 1880. Les ouvrages, ça existe déjà dans les années 1880. Ça. Après, ça ne reste plus que les ouvrages de prix. La deuxième raison, je pense, c'est le développement de la science à l'école, qui fait qu'en même temps que les livres de vulgarisation diminuent, les manuels scolaires augmentent.
Et les conférences, comme faisait Flammarion, ont disparu.
Après 14, il n'y en a plus aussi. Il y avait des conférences, mais moins populaires, si je puis dire, que les conférences de l'époque de Flammarion.
C'est vrai, les gravures sont splendides, sont toutes splendides. Comme dans les revues de vulgarisation de l'époque, la nature, par exemple, jusqu'en 1900, a des gravures sur bois, qui sont sur racines, sont splendides.
Cette histoire du merveilleux, je crois qu'elle est une des clés de cet effondrement. Il y a des clés dans les discussions de l'époque même. Par exemple, Louis Figuier, dans La Terre avant le déluge, fait une préface où il conteste la fiction qui consiste à introduire sur la scène divers personnages et à mettre dans leur bouche la description des phénomènes scientifiques. C'est une technique qui lui a paru toujours fausse, puérile, être un constant obstacle à la clarté du style. Donc ils sont déjà un peu... dès 1880, comme 1864, conscient que cette façon de mettre en scène un peu artificiellement des personnages pose une difficulté à la fois par rapport à la science et par rapport à l'imaginaire. À un autre moment, un autre auteur dans la Revue des Deux Mondes part d'un petit roman de Maurice Sand, le fils de Georges, qui en a fait plein aussi. Il a fait notamment Le Monde des Papillons. Le critique dans la Revue des Deux Mondes dit ceci, il parle de romans greffés sur un traité scientifique. Il dit qu'il faut beaucoup de goût, beaucoup de talent, pour lutter avec succès contre la difficulté que comporte cette forme. Le savoir-faire d'un auteur dramatique n'est pas de trop si l'on veut faire que le lecteur se laisse ainsi instruire par procuration. Alors, en effet, lorsque dans un livre le discours se trouve remplacé par la conversation, il arrive souvent que les questions destinées à amener les réponses impatientent le lecteur, dont la pensée va plus vite que le personnage de fantaisie chargé de le représenter. Et ce critique donc de 1867 pose vraiment des questions d'écriture de ce type d'ouvrage. Il y a un rythme qui fait que si le merveilleux ne l'emporte pas, on est foutu. C'est ce que nous dit Hetzel à propos du livre de Jean Massé, L'arithmétique de grand-papa. Et là, on peut comparer deux aspects qui sont tous les deux pleins d'espoir, d'ailleurs. Lui, Figuier s'oppose à ce style. Alors, il dit qu'il faut un style rigoureux, pas de fioritures. Et en même temps, il dit ceci. Il parle de l'enfant. Le, c'est l'enfant. Il suffit de le prendre par la main, de le mener dans la campagne et de lui ouvrir les yeux. L'oiseau des bois, la fleur des champs, l'herbe de la prairie, le rossignol qui chante dans le bocage, le papillon qui trace dans l'air son sillon de rubis et d'émeraude, l'insecte qui tisse silencieusement sous une fleur desséchée, son linceul temporaire, la rosée du matin, la pluie féconde, la brise attiédie qui caresse la vallée, voilà le théâtre varié de ses naïfs travaux, voilà son plan d'étude. Alors là, il y a du merveilleux. C'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est pas simplement la relation merveilleux, les contes, des choses comme ça, parce que finalement, il y a de temps en temps l'heure du conte, elle marche bien dans les bibliothèques, ça. Mais ça a un peu disparu. C'est aussi le merveilleux de la nature en tant que nature. Essayez donc d'émerveiller un enfant et le faire regarder un petit oiseau qui volette, même si vous avez plein de qualités, c'est vachement dur par rapport à la télé, par rapport à d'autres choses. Donc c'est simple, c'est pas simplement le merveilleux qui a disparu, c'est le merveilleux par rapport à la science. Quelle va être la relation à l'enfant par rapport à l'image? Il va peut-être être intéressé par l'image, on va l'amener à lire le texte grâce à lui. C'est l'émerveillement par rapport à la nature qui est là. Chaque fois qu'on se promène avec des gamins dans la nature et qu'on arrive à trouver les mots, il faut trouver les histoires, et ça a disparu. C'est de parler de la nature a disparu, ça a diminué. Et alors, Hetzel nous dit ceci. Un peu de lumière, quelques étoiles dans un ciel trop profond, cela fait si bien. Et voilà comment il justifie la science en compte. Tout le monde n'aime pas la science à l'état brut. Le diamant n'a jamais renié les services du lapidaire. Il serait temps que gens d'imagination et gens de science, mêlant leurs richesses, en vinssent à se dire ce que les plus simples comprennent, c'est qu'abondance de biens ne nuit pas, c'est que l'union fait la force. C'est que l'esprit et la science vivront au mieux ensemble et se rendront de mutuels services quand les savants parviendront à associer à leur science, sinon tout leur esprit, au moins un peu de celui qui leur déplaît de voir aux autres. Alors, regardez ce livre, Les Jardins de Mademoiselle Jeanne. Il a eu un prix, pas n'importe quel prix. Il a eu le prix du concours Montyon de l'Académie française.
C'est le prix de vertu.
Ah oui, prix de vertu. Donc il a eu un prix en 1880. Et ça met en scène une petite fille, qui est assez riche finalement, Mademoiselle Jeanne, qui a un papa, une maman évidemment, ils ont un jardinier qui s'est cassé la jambe, qui est blessé, tout ça, qui ne peut plus reprendre son boulot. Donc, Mademoiselle Jeanne demande à son papa de lui fournir un petit bout de son terrain pour que ce soit son jardin à elle, et pour que quand même reprendre le jardinier, pour le payer à faire quelque chose, à exploiter son petit jardin. Et le petit jardinier va évidemment jouer le professeur. Mademoiselle Jeanne, c'est une petite cartésienne extraordinaire. Mais il faut des personnages secondaires. Alors, vous avez Yvonne, la sœur de Mademoiselle Jeanne, et Georges de Villeray, le fiancé de Mademoiselle Jeanne, qui va jouer les ignorants, quoi. Alors, à un moment, il y a un ver de terre qui arrive, il y a monsieur Georges de Villeray qui dit, bon, pff, qu'est-ce que c'est que ça, il en a rien à foutre. Et puis, Mademoiselle Jeanne lui dit, mais non, vous avez tort, papa, explique-lui. Le papa de Mademoiselle Jeanne va expliquer, et Georges Villeray termine sa phrase. Ma foi, dit Georges, qui avait pris gaiement son parti, moi aussi, je suis bien aise de savoir tout ce que vous avez dit. Et je vous en remercie, monsieur de Chanzy. Si la première fois que j'ai demandé, comme aujourd'hui à Mademoiselle Jeanne, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, on ne m'avait pas répondu tout bonnement, c'est un ver de terre, je n'ai pas mérité aujourd'hui votre aimable leçon. Donc là aussi, on a le personnage qui, finalement, est converti à la science. Pour rehausser, le fiancé ne peut plus épouser Mademoiselle Yvonne parce qu'il est ruiné, donc Mademoiselle Jeanne se débrouille pour que tout ça soit possible. Alors, c'est évidemment moralisateur, mais bon. Ça a eu le prix de l'Académie française. Bon, mais l'Académie française de 1880 représente une conception de la culture de 1880, comme notre académie représente des conceptions, qui ne sont peut-être pas la nôtre, mais des conceptions de la culture en 1992. Et on doit le respecter à ce titre-là.